France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui.
Irène Frachon, pneumologue, et puis lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator. Et donc,
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Juin 2009, je pousse la porte de la morgue avec appréhension. L'autopsie a commencé. J'aperçois Isabelle, médecin légiste, perchée sur un petit escabeau, protégée par une blouse, des lunettes, des gants, inclinée sur un corps barré d'une large incision. Elle me sourit, cela m'empêche de vaciller tout à fait. En face de moi, je reconnais les traits sans vie de Madame A. Isabelle procède méthodiquement à l'examen des viscères et finit par extraire le cœur. Elle pratique au bistouri une incision l'ouvrant en deux parties, révélant les cavités du cœur séparées par une valve, la valve mitrale. Celle-ci est profondément remaniée. Même à un regard non averti comme le mien, je pense alors, c'est comme le nez au milieu de la figure. Les cordages de la valve que nous observons sont monstrueusement déformés, épais, rétractés, comme englués dans un tissu blanc et brillant, presque nacré. Cet aspect, nous le connaissons maintenant trop bien. Nous prenons des photos de ce cœur martyrisé. Je m'éloigne et jette un dernier regard sur le corps, frappé par un détail. Sur le bras, bien rond, se détache un tatouage de médiocre facture en forme de cœur. À l'intérieur, je déchiffre une inscription « Pour la vie ». La dernière fois que j'ai vu Madame A, il y a quelques semaines, elle vivait encore. Elle m'a raconté son histoire, l'histoire d'un médicament pris pour maigrir. L'histoire que je veux raconter, celle qui éclaire la mort de cette femme, a croisé ma vie de médecin pour la première fois il y a près de 20 ans. J'étais encore en formation interne en médecine. Bonjour Irène Frachon.
Bonjour Mathieu.
Ces lignes, ce sont les premières pages de votre ouvrage Mediator, 150 mg, combien de morts, publié en 2010 aux éditions du Dialogue. Et c'est le début pour vous d'un combat de haute lutte face au laboratoire Servier. Un combat que vous avez gagné, puisqu'en décembre 2023, l'entreprise sera reconnue coupable de tous les délits qui lui étaient reprochés. C'est l'occasion de dérouler le fil de votre vie pour comprendre ce qui a nourri votre ténacité, votre engagement dans ce combat tentaculaire. Et votre histoire, Irène Frachon, née Irène Allier, commence le 26 mars 1963 à Boulogne-Billancourt. Et voilà ce que l'on pouvait entendre en ce mois de mars sur Interactualité.
Aujourd'hui s'ouvre la campagne du timbre antituberculeux sur le thème cette année du BCG Assurance contre la maladie. Un vaccin qui, répétons-le une fois de plus, ne provoque ni accident ni incident et qui a supprimé chez des centaines de milliers d'enfants tout risque de méningite et même de primo-infection grave.
Deux pharmaciens du Guy Hospital de Londres lancent cette semaine dans les colonnes du journal médical Lancet un avertissement à propos du médicament qui s'appelle l'imipramine. L'imipramine risque d'avoir des effets analogues à ceux de la thalidomide sur les femmes enceintes. Ces deux experts demandent aux médecins qui ont prescrit ce médicament de leur faire part de leurs observations. Encore une fois, il s'agit d'une mesure de prudence.
Un titre d'information générale enfin, un titre dramatique. Jean Bruce, le célèbre auteur de romans policiers, le père d'OSS 117, s'est tué cet après-midi au volant de sa voiture. Jean Bruce roulait à 200 à l'heure. Il est entré de plein fouet dans un camion. Jean Bruce est mort sur le coup.
Il conduisait vite quand même, Jean Bruce. Hein.
Oui, ça a été une prise de conscience du massacre sur les routes avec des réglementations qui n'ont fait que augmenter et s'intensifier avec une réduction majeure de la mortalité sur les routes en dépit de toutes les protestations vis-à-vis de ces réglementations.
Est-ce que vous avez été une lectrice d'OSS 117, Irène Frachon ?
J'ai lu OSS 117, j'ai surtout vu en fait,
les films,
pour tout vous avouer,
comme nous tous,
les films avec Dujardin
quasiment.
Qui me font toujours autant rire.
Qu'est-ce que ça vous inspire de l'actualité du mois de votre naissance en mars 1963 ?
eh bien, on est rentré dans cette discussion majeure sur, en fait, le côté devenu industriel du commerce des médicaments, des vaccins. On est sorti des petites apothicaires, des petites pharmacies, petites officines, et c'est la grande question qui taraude toujours, qui est celui du bénéfice et du risque des médicaments.
C'est ça, on l'entend dans l'archive, il y a déjà cette défiance, mais elle est aussi ancienne que la vaccination d'ailleurs.
Elle est aussi ancienne que la vaccination, et puis les effets des médicaments nocifs, notamment sur la femme enceinte, aujourd'hui c'est la dépakine. Il y a eu le distilbène, et puis avant il y a eu la thalidomide, et c'est donc des histoires qui se répètent sans arrêt. Donc le terreau, il est là.
Est-ce qu'il y avait des médecins dans votre famille, Irène Frachon ?
Pas du tout.
Non ?
Non. Non, non, il y avait une grande admiration de mes grands-mères. Je pense que c'est une de mes grands-mères aurait voulu être médecin, mais à l'époque, c'était pas possible pour les femmes.
Quand on voit le combat que vous avez mené face à Servier, à ce laboratoire, on se demande de quel bois est faite Irène Frachon. Enfant, vous étiez quel genre de petite fille ? Est-ce que vous étiez du genre à vous castagner dans la cour de récré ou pas ?
Un petit peu garçon manqué quand même. Un petit peu garçon manqué, mais aussi dans les jupes de ma mère, paraît-il. Donc je devais déjà être prise entre une personnalité, je pense, un petit peu forte, enfin voilà, voire péremptoire, et puis aussi quelqu'un qui fait attention aux autres aussi. Et qui... Donc ça vous met toujours dans cette espèce de petite dissonance entre on y va, on rentre dedans, et puis au contraire, on est plus empathique.
Pourquoi péremptoire ?
C'est un peu grande gueule, enfin, voilà, j'ai toujours parlé un petit peu haut et fort, et j'en ai jamais été très fière d'ailleurs, c'est plutôt du côté des défauts.
Pourtant, c'est devenu une qualité de parler haut et fort pour vous.
Alors,
c'est grâce à ça aussi qu'on vous a entendu. L'affaire du médiateur, non ?
L'affaire du médiateur, en fait, elle m'a permis un peu de me réconcilier avec mes défauts, oui. Notamment ce côté un peu grande gueule. Ça a servi, cette affaire. Alors, tant mieux.
Est-ce que vous aviez le sens de la justice, déjà, petite fille, à votre avis, ou pas ?
Ah oui, ça, profondément. Alors, j'ai une éducation protestante. Très protestante, c'est-à-dire que on vous enseigne la responsabilité individuelle, la responsabilité que l'on a à l'égard des autres et le sens de la justice. C'est quelque chose qui est vraiment inhérent à cette éducation, même indépendamment de la foi. Il y a aussi un cadre éthique qui est très important en fait dans cette éducation.
Et votre histoire familiale, ce sont aussi des grands-parents qui sont des personnages importants de votre histoire, mais aussi de l'histoire tout court.
Oui, j'ai grandi avec deux histoires tout à fait exceptionnelles de mes deux grands-pères, que par ailleurs j'aimais beaucoup. L'un qui était l'amiral Meyer et qui a négocié la libération des poches de l'Atlantique, notamment La Rochelle, avec un dialogue, à l'époque qui a d'ailleurs été tendu et difficile, parfois critiqué, avec celui qui dirigeait cette forteresse, l'amiral Schirlitz.
Donc un marin allemand.
Un marin allemand, prussien, protestant également, pour obtenir une libération avec moins de dégâts, que toute la destruction organisée ne se fasse pas. Et à chaque fois que je vois de belles images des tours de La Rochelle, du port de La Rochelle, j'ai toujours cette pensée très, très émue pour ce grand-père.
Et l'autre grand-père, alors, qui était-il ?
Alors lui, c'était un petit banquier à lunettes, enfin grand, mais en tout cas.
Et, simple, Jacques Allier.
Jacques Allier, mais il travaillait pour une banque qui faisait beaucoup d'affaires avec la Norvège et notamment une centrale qui produisait de l'électricité et dont, entre guillemets, les produits secondaires étaient l'eau lourde en Norvège.
Qu'est-ce que c'est l'eau lourde ?
Alors l'eau lourde, c'est une eau avec un oxygène qu'on appelle le deutérium et qui constitue une toute petite part de l'eau normale, mais en fait qui est utile quand elle est isolée pour ralentir je suis pas du tout physicienne, mais ralentir la possibilité de fusion nucléaire.
Enfin, ah oui, quand même.
En fait, l'eau lourde faisait partie des éléments physiques qui étaient très très recherchés par des physiciens comme Joliot-Curie, qui expérimentaient donc l'énergie nucléaire, la fusion nucléaire, avec des projections d'abord civiles, puis malheureusement militaires, avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, et qui avaient besoin pour leurs expériences naissance et peut-être pour la fabrication même de voilà, d'une
combustion nucléaire. Et votre grand-père banquier s'est retrouvé dans cette histoire.
Oui, parce qu'il avait des relations extrêmement fortes, professionnelles et également de respect avec les dirigeants de la Norsk Hydro. Et c'est à lui qu'a pensé le gouvernement quand il s'était... On a su que les Allemands voulaient récupérer cette eau lourde et on a chargé mon grand-père d'aller négocier. Et c'était vraiment une histoire d'espion. Ouais. D'espionnage qui a donné lieu à un film qui s'appelle La bataille de l'eau lourde, où il joue son propre rôle et qui est paru après-guerre. Et ce banquier à lunettes est quand même parti après une formation d'espion. Il a vu qu'il était suivi. Il a réussi à échapper à un détournement de son avion abracadabrantesque, en transportant des bidons d'eau lourde qu'il a transportés. Et il s'est échappé d'un premier avion où il était montré ostensiblement. Il est passé dans le deuxième avion qui est parti en Angleterre pendant que l'autre avion était détourné par les Allemands.
Ah oui, c'est OSS 117 en
fait. C'est OSS 117, on y revient.
On y revient. Donc deux figures incroyables. Il y a aussi votre arrière-grand-père, Raoul Allier, qui était professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de Paris et qui a influencé la conception libérale de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 quand même.
Oui, oui, oui.
Donc il y a toutes ces figures dans votre environnement familial proche. Donc forcément...
Bah
ça
forcément.
Fabrique quelque chose quand même.
Oui, alors forcément rien du tout, parce que je devais avoir une vie... Enfin, j'étais pas une militante née du tout, pas du tout.
Oui.
Donc j'étais programmée en fait pour être pneumologue au CHU de Brest.
Oui, mais enfin, il y a un environnement particulier quand même.
Alors, comme mes deux grands-pères, en fait c'est une histoire qui a percuté notre existence, c'est pas quelque chose que nous sommes allés chercher. C'est important, je suis pas une militante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a protégée dans l'affaire du Mediator, parce que je n'étais pas là pour faire valoir telle ou telle idéologie contre les labos, contre ceci, contre cela, ou contre les vaccins. Je ne suis pas du tout contre les vaccins, évidemment. C'est une histoire qui m'a percutée et qu'il a fallu effectivement saisir et porter jusqu'au bout.
Dans un portrait pour Le Monde en 2015, votre cousin pasteur, Laurent Schlumberger, disait de vous, on ne peut pas mener un combat comme le Mediator si on n'a pas confiance, une grande confiance de fond et qu'on sait qu'on ne joue pas sa vie. C'est cette confiance fondamentale qui a permis à Irène d'oser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord avec ça. Mais indépendamment peut-être de cet héritage, effectivement un peu naturel, hérité de ces histoires qui nous ont beaucoup en fait marqués dans notre enfance. Vraiment, ça nous a constitué l'histoire de ces deux grands-pères. Mmh. Mais il y a quand même autre chose dans cette confiance. À dire vrai, ce sont les preuves que j'avais. C'est-à-dire que j'ai été témoin d'un crime industriel totalement hors norme, avec des preuves telles que je me suis dit, au bout du bout, on aura la vérité, on aura la justice. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps, en fait. Mmh. C'est ça qui a été ma grande surprise. Mais rira bien qui rira le dernier. Vous voyez, c'est ça que je me disais en ayant ces documents en main. Mmh. Et quand, effectivement, on avait contre nous quand même des vents très mauvais, c'est la force de la preuve,
ouais,
aussi.
Si on vous avait dit que vous alliez signer pour 15 ans de combat, vous y seriez allé ou pas ?
Bon, oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, en fait, oui, bien sûr. Parce qu'il y a derrière, alors là, c'est vraiment le moteur, hein, c'est des milliers de victimes que j'ai connues à Brest, puis que j'ai connu dans la France entière. Je voudrais juste rendre hommage aujourd'hui, par exemple, à Nicole, qui est morte il y a une semaine des conséquences de l'empoisonnement du Mediator. C'est un accompagnement entre elle et moi de plus de 15 ans. Mmh. Et c'est comme ça pratiquement chaque mois.
Qu'est-ce qui a éveillé votre vocation familiale dans ce milieu bourgeois bien-pensant que vous décrivez comme cela vous-même, hein, Irène Frachon ?
Qu'est-ce qui a
éveillé votre vocation médicale ?
Alors, dans cette éducation, on allait à l'école biblique et j'avais une monitrice d'école biblique. L'école biblique, c'est l'école protestante, c'est le catéchisme protestant, en fait. Une monitrice qui nous parlait des très grandes figures modernes du protestantisme à l'époque, qui venaient, en fait, de disparaître,
oui,
qui étaient en particulier Martin Luther King et le docteur Albert Schweitzer, dont on entend peu parler aujourd'hui, qui était un très grand médecin humanitaire, qui a été un pionnier de l'humanitaire, qui était également un musicien, un pasteur, un philosophe, un homme tout à fait hors norme sur le plan intellectuel. Et son histoire, il a créé un hôpital à Lambaréné, au Gabon, alors qu'il aurait pu avoir une vie brillante et sans... Il était musicien, il était doué en tout, et il a eu cette vocation qui n'était pas d'importer le bien, mais de s'intéresser à l'autre. Cette histoire a été racontée et m'a émerveillée, et vraiment...
C'était votre vedette, quoi.
C'était ma vedette.
Ouais.
Et j'en parle, enfin mes amis...
Albert Schweitzer,
c'est ouais. Quand même... Quand on voit avec son casque colonial, sa grosse moustache... Alors, des années plus tard, je me suis dit, oulala, Albert Schweitzer, après tout, vous voyez l'histoire un peu de l'abbé Pierre, je me suis dit, est-ce que c'est pas une icône qui était, en fait, avec son casque colonial, colonialiste, et pas du tout, enfin... Finalement, qui était cet homme? Donc, j'y suis retournée.
Ouais.
J'ai lu des livres d'un sociologue gabonais qui s'appelle Augustin Heyman, qui a écrit sur cette idole, cette icône africaine. J'ai lu aussi des biographies récentes, extrêmement documentées. Et ça a été une grande joie pour moi, parce que je me suis aperçue que cet homme, non seulement, effectivement, m'avait inspiré, mais qu'il était encore aujourd'hui une personnalité très inspirante, quasi woke.
Ah oui, carrément.
Mais oui, respect de la vie, pratiquement ouais. Antispéciste, contre, il a été très proche des combats d'Albert Einstein, contre la guerre nucléaire, et c'était quelqu'un qui était également, en fait, très très... anticolonialiste féroce, enfin, avec des critiques du colonialisme extrêmement féroces, et qui était dans la philosophie moderne du care, c'est-à-dire de l'intérêt porté à l'autre.
Albert Schweitzer, qui décède en 1965, vous naissez en 63, et on va réécouter cette archive de 61, de 5 colonnes à la une pour entendre sa voix.
Il n'y avait pas de village des lépreux. Les lépreux avaient quelques petites cases parmi les autres, mais c'est seulement alors que j'ai pris la décision, en 53, de créer un village des lépreux.
Vous avez mis combien de temps pour le faire ?
2 ans. D'abord, j'ai dû créer le terrain, et alors, j'ai conçu le village. Et alors, quand je me demandais avec quoi j'allais faire les toits, j'ai eu le prix Nobel, et alors, j'ai pu faire volatiliser le prix Nobel d'Atoll, et couvrir mes toits.
Incroyable, parce ouais, qu'on voit la simplicité aussi du personnage.
C'est bouleversant. Hein. Là, ce n'est pas les labos pharmaceutiques voilà. Qui l'ont... En fait, il donnait des concerts d'orgue dans l'Europe entière pour pouvoir payer, financer la construction de cet hôpital. Et effectivement, il trouve que le prix Nobel lui a, ouais. De la paix lui a apporté, permis de finir ses toits pour son village de lumière, le village des lépreux.
Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour vous dans votre parcours de médecin, Irène Frachon. Un mot avant la pause, pourquoi vous choisissez la pneumologie en fait ?
Ça c'est une autre rencontre.
Pourquoi cette spécialité ?
Une autre rencontre, alors là, quand j'avais pas du tout imaginé être pneumologue, et quand on fait un internat, on passe dans différents services, et je me suis retrouvée à l'hôpital Foch, dans le service du professeur Isabelle Cobarère, qui a été un autre grand médecin, qui a marqué ma vocation, puisque de ce passage, notamment qui était axé sur la prise en charge des patients... qui avait besoin de greffe pulmonaire, ça se mettait en place, et le centre de l'hôpital Foch est devenu un très grand centre de greffe pulmonaire. Il y avait 2 médecins marquants, ce professeur Cobarère et le docteur Marc Stern. Et c'est vraiment de cette rencontre complètement humaine ouais. Que j'ai décidé d'abord de travailler à Foch, puis après, la vie a fait que je suis partie travailler à Brest. Mais initialement, c'était une carrière à Foch avec cette équipe hors norme qui continue d'ailleurs à faire des merveilles.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Ben moi, j'engraisse quand même. J'ai encore pris 7 kilos ce mois-ci. Comme depuis l'opération, j'ai plus d'énergie. Je peux plus me dépenser physiquement.
Et contrôler son appétit, c'est pas facile, je sais bien.
Avant, j'avais du médiateur, mais on m'a pas refait d'ordonnance. C'est dommage parce que ça m'aidait bien.
Ah non, ça n'a jamais aidé qui que ce soit. Et il n'est pas exclu qu'il soit précisément la cause de vos ennuis cardiaques.
Bah non, c'est autre chose. J'ai toujours très bien toléré ce machin, moi, là. J'ai jamais eu aucun souci avec.
Non. Madame Zakaria, je vous assure, c'est contre-indiqué. Out le médiateur, hein. On laisse ça au rang.
Voilà, on laisse ça au rat. 2016, ce film d'Emmanuel Berco avec Sitze Babette Knudsen dans votre rôle, Irène Frachon, vous qui êtes notre invitée au carré cet après-midi. Cette scène-là, vous l'avez vécue un nombre de fois incalculable, j'imagine.
Oui, Tout ce qui est... Bon, il y a une part fictionnelle dans le film, mais en fait, c'est vraiment la vérité de cette histoire, la vérité du drame de ces gens qui ont été empoisonnés à leur insu, alors qu'ils, dans l'immense majorité des cas, c'était des femmes, 70%, et dans l'immense majorité des cas, c'était pour maigrir. Oui. Mais il y a une chose importante à vous dire, c'est que le médiateur n'est pas, comme on le présente généralement, un antidiabétique détourné comme coupe-faim. L'histoire du médiateur, c'est l'histoire d'un coupe-faim mortel, maquillé en antidiabétique. Et c'est très important de dire cela, parce qu'on pourra peut-être y revenir, on a tendance à enseigner l'affaire du médiateur comme une affaire de prescription hors AMM. Mmh. On l'a même mise en parallèle avec aujourd'hui d'autres coupe-faim antidiabétiques comme le sémaglutide, etc. Ça n'a rien à voir d'une certaine façon, sauf l'impact sur le poids des femmes. C'est une affaire criminelle, ça n'était pas un antidiabétique.
On va y revenir. Ce film-là, La fille de Brest, c'est une parenthèse dans l'affaire pour vous?
Ah non. C'est une parenthèse enchantée pour mes enfants. Mmh. Ça les a un petit peu réconciliés, le tournage, les étoiles du cinéma, ça leur a mis du baume au cœur, notamment à mes filles, je pense, parce que cette affaire-là nous hantait depuis déjà 5 ou 6 ans. Elle était dure, avec des condamnations en justice, mon livre a été censuré avec de la peur, c'était obsessionnel dans la famille, les enfants en avaient marre, et là tout à coup arrive le cinéma, c'était une équipe merveilleuse, l'équipe avec... entraîné avec Emmanuel Berco, qui racontait la vraie histoire, donc de manière très engagée. Et pour eux, ça a été un petit miracle.
Mais
et
pas puis, pour vous.
Pour moi, on était, ça s'inscrivait dans cette démarche de témoignage et de faire connaître cette histoire. J'ai fait confiance à Emmanuel Berco, qui voulait un cinéma vérité, et ça a beaucoup marqué l'opinion publique.
Lorsque vous établissez donc en 2007 un lien direct entre des cas de valvulopathie, donc cette pathologie, on en parlait tout à l'heure, qui détruit les valves cardiaques, et la prise de médiateur, est-ce que vous pressentez l'ampleur du combat qui va arriver, en tout cas pour vous ?
Pas tout à fait.
Comment vous le vivez à ce moment-là ?
En fait, d'abord, il a fallu que je réalise deux choses, et j'ai mis du temps ça à le réaliser. La première, vous savez, je ne suis pas cardiologue, je suis pneumologue. Donc, je traquais une maladie rare provoquée par le médiateur, et puis un peu, par effet, je dirais, de filet dérivant, je tombe sur les valvulopathies, et en fait, c'est ça qui a fait le plus grand nombre de morts. Donc, j'ai travaillé ensuite avec des cardiologues, et il a fallu que je comprenne d'abord qu'il y avait beaucoup de valvulopathies, ce qui était une énorme surprise, et que les cardiologues étaient passés à côté pour des raisons maintenant qu'on a bien analysées. Ils ont d'une part été trompés par les laboratoires Servier, et d'autre part, ils ont confondu avec une autre maladie. Mais donc, réaliser qu'il était possible que depuis 30 ans, il y ait des dizaines de milliers de valvulopathies. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous... Voilà. La deuxième chose dans cette enquête m'a fait basculer, c'est de découvrir qu'il y avait donc une délinquance de la part du laboratoire. C'est-à-dire qu'il y avait des mensonges et une tromperie. Et il était donc imaginable, possible, que ce poison soit distribué depuis 30 ans sans que personne ne s'aperçoive des dégâts. Et une fois que vous avez fait ça et fait un petit calcul, vous êtes complètement effaré, vous basculez dans une autre dimension parce que vous êtes devant un crime industriel aux conséquences absolument monstrueuses. Et personne ne le sait, vous êtes seul à le savoir au petit déjeuner avec votre mari. C'est quelque chose de presque aliénant, en fait. Voilà. Alors ensuite, dénoncer Servier, je savais que Servier avait très mauvaises habitudes, puisqu'ils avaient déjà un scandale avec un coupe-faim qui s'appelait l'isoméride, qui s'était passé dans les années 90, et qu'ils s'étaient conduits de manière absolument ignominieuse, d'une part avec les victimes, ils avaient combattu, ils avaient trompé, et ils avaient même utilisé les méthodes de barbouze à l'époque. Donc je savais que c'était pas des gens bien, voire dangereux, et quand j'ai dit que j'allais dénoncer cette affaire-là, certains m'ont dit Irène, je dis, mais je connais Servier, mais j'ai des preuves, c'est ce que je vous disais, j'ai la force de la preuve. Ils m'ont dit, tu ne sais pas ce que tu as en face de toi. Ça m'a fait un peu sourire, et aujourd'hui, je me dis, oui, bien sûr, ouais. Je ne pouvais pas imaginer, et encore maintenant, je n'arrive pas à comprendre qu'une telle affaire ait rencontré autant de résistance d'un système, et pas seulement Servier, mais avec toute une alliance médico-pharmaceutique et politique autour de ce laboratoire.
Qualifié de mafieux d'ailleurs, on va y revenir dans un instant. Quand vous décidez de dénoncer justement l'affaire, vous avez le sentiment de vous engager dans quoi ? Ce serait quoi le bon terme ? Un combat ? Une guerre ? Une lutte anti-corruption ? Comment vous le qualifiez en
fait ? Au départ, je pensais que c'était un combat, et en fait, c'est devenu une guerre. Voilà. C'est ce que je pensais lancer l'alerte. L'alerte a fini par fonctionner, puisque fin 2010, le scandale éclate. Ça fait la une de tous les journaux. Le ministre de l'époque, Xavier Bertrand, prend l'affaire en main de manière extrêmement forte, avec une loi d'indemnisation des victimes, une loi pour mieux réguler la sécurité sanitaire. Les juges d'instruction s'en emparent. Et là, je me dis que le job est fait. Et en fait, on était au début du chemin.
Ouais. Et alors, justement, 15 ans donc, de guerre. Est-ce que vous avez eu le sentiment aussi de mener cette guerre toute seule, ou d'avoir a posteriori quand même été entouré, encouragé? Comment ça s'est passé? Où est-ce qu'on mène ça dans une certaine solitude malgré tout?
Et ben, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'à la fois, on porte cette histoire, j'étais en état d'hypervigilance. C'est l'état de la guerre, ça. Pendant effectivement plus de 10 ans, puisqu'il fallait à tout instant interagir contre les manigances qui visaient perpétuellement à étouffer cette affaire, non seulement venant de ce laboratoire, mais y compris d'une partie de mes pairs, des sociétés savantes, de l'Académie de médecine. Donc ça, c'était terrifiant, parce qu'il fallait effectivement mener cette guerre un peu seul contre tous.
Ouais.
Mais ce qui a été extraordinaire, ce qui est raconté dans le film, ce qui est raconté partout, c'est que il y a eu des appuis, il y a des gens qui se sont levés, des individus, un peu partout, parfois inattendus, bien sûr du côté du journalisme, mais pas seulement, des magistrats, des médecins, des citoyens qui s'y sont collés. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais été seule. Mais c'était un petit peu une petite bande, voilà, très solidaire, et qui est restée jusqu'au bout d'ailleurs.
Et c'est quoi alors le moteur du seul contre tous alors ?
Les victimes. C'est-à-dire que ce que je voyais, c'est que si je... En fait, j'avais dans mon carquois des flèches. Et ces flèches, si elles visaient bien le but, eh bien, c'était quelque chose qui basculait pour les victimes. Ça leur permettait d'être reconnues, ça leur permettait d'être indemnisées. Ces flèches, c'était ma parole, les preuves scientifiques, les éléments de tromperie que j'avais tout un éventail, et si je le gardais pour moi, ces gens-là allaient se faire carchériser par des cabinets d'avocats sans foi ni loi. Donc, employés par Servier. Donc, c'était vraiment... ça aurait été criminel pour moi, et encore aujourd'hui, de ne pas utiliser ces flèches pour les défendre, d'autant plus que leur situation était vraiment physiquement insupportable. Et moi, elle me le racontait.
Sauf qu'il faut maîtriser l'art de les envoyer au bon moment, ces flèches-là. Hein.
Eh bien, je ne savais pas que j'étais douée pour ça.
C'est ça.
En fait, j'ai des collègues qui me disent « Bah, finalement, t'es une guerrière. » Mais je ne le savais pas.
Vous avez qualifié ces laboratoires Servier de système mafieux. Qu'est-ce qui caractérise au fond le fonctionnement d'une telle entreprise, ou qui avait eu vraiment le temps de bien l'analyser aujourd'hui? Parce que ce n'est pas que le laboratoire Servier, c'est tout ce qui aussi orbite autour. Hein.
Oui, bien sûr. C'est un système qui a été mis au point. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est le jugement de décembre 2023, en 1000 pages. C'est l'autopsie d'un système mafieux, corruptif, d'influence. C'est absolument extraordinaire à lire, et je dirais que c'est, il faut savoir que cette histoire-là a été décortiquée, et il faut la garder précieusement, parce que malheureusement c'est aussi un petit peu un sérum de vérité sur la façon dont des systèmes peuvent basculer dans des transgressions qui sont criminelles et qui sont soutenues. Hein. On parle de criminalité en col blanc. Donc c'était Jacques Servier, une figure donc qui a tout à fait de gourou, un petit peu intelligent, très paranoïaque, très mégalomane. Malheureusement, aujourd'hui, on a d'autres exemples de ce que ça peut donner quand on prend le pouvoir. Lui, c'était quelqu'un qui avait pris le pouvoir et qui avait organisé, en fait, la tromperie, la manipulation et l'escroquerie et la corruption massive.
Ouais. Justement, on voit aujourd'hui, avec la figure de Donald Trump, que la corruption, elle est entièrement assumée aujourd'hui. Hein. Elle est vraiment, elle est signée, elle est ordonnancée, ça fait l'objet de décrets. Est-ce que ça vous rend folle, Irène Frachon, après ce type d'exemple-là, à l'époque où cette corruption était quand même cachée, de voir qu'aujourd'hui, elle s'exprime sans honte?
Quand elle est cachée, c'est parfois presque pire. Alors, je ne vais pas défendre Trump, hein, c'est pas du tout ça, mais ce qui m'a beaucoup frappée dans cette histoire, et alors là, je vais vous citer la Bible, hein, je suis désolée, mais vraiment de l'Ancien Testament, qui dit « Tu ne recevras point de présent, parce que les présents aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompt le cœur des justes. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase ? Donc, qui veut dire que le problème est quand même assez ancien. C'est que des gens qui pensent être des justes, qui pensent avoir, par exemple, des médecins, qui pensent avoir fait les études qu'il faut, l'analyse critique nécessaire, etc., pensent qu'ils peuvent effectivement recevoir des présents et qu'ils n'auront pas à le rendre d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle donc les conflits d'intérêts. Or, l'affaire du médiateur montre sous un jour extrêmement cruel que cet esprit de corruption fonctionne pour le bénéfice des laboratoires, par exemple, et contre l'intérêt des patients.
Ça, c'est le problème des experts aussi, et des conflits d'intérêts donc, au sein des instances de santé, par exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas, finalement, à nettoyer le système et à avoir des gens réellement indépendants au sein de ces instances médicales ?
Parce que personne ne le souhaite, parce que ceux qui le souhaitent sont rares, sont souvent assimilés à des ayatollahs, à des extrémistes qui critiquent le système et qui gênent l'innovation. J'ai moi-même été mis, d'une certaine façon, au banc de ma communauté scientifique pour avoir dit, bah, écoutez, l'affaire du Mediator montre qu'il y a quand même un problème avec les conflits d'intérêts et que ça peut aboutir à des catastrophes et qu'il faut y réfléchir différemment, il faut changer un petit peu la grille de lecture, ça m'a valu énormément de colère, et ce qui d'ailleurs me rend peut-être encore aujourd'hui assez amère, c'est de voir que l'affaire du Mediator, pour une partie du monde médical, alors qu'il y a des milliers de morts, les a moins choqués que mes prises de position disant « attention, il faut faire attention ». Et pourtant, je connais ce système, j'ai eu des liens d'intérêt avec des laboratoires, je sais que beaucoup de laboratoires font bien leur travail avec de vraies innovations, mais derrière, il y a les risques de transgression qui existent.
Donc vous avez été marginalisé ?
Oui, tout à fait.
Ouais.
C'est une affaire qui est taboue, en fait, dans le milieu médical. Je n'ai jamais été invitée par une communauté de cardiologues pour parler de ce qui s'est passé par rapport à une pathologie qui a été ignorée du monde de la cardiologie pendant très très longtemps. Et c'est même pas pensable que je sois invitée, alors que je suis un médecin normal, je suis un praticien hospitalier, et j'ai fait mon travail avec une médecine fondée sur les preuves. C'est-à-dire, je sais pas comment vous dire ça, je n'ai rien fait de hors les clous. Simplement, j'ai été jusqu'au bout de cette dénonciation. Et ça, dans ce milieu marqué par l'omerta, par la chape de plomb, c'est inenvisageable. Et donc, je suis devenu le problème, alors que le problème, c'est l'affaire du Mediator.
Est-ce qu'en ce moment, il y a d'autres scandales sanitaires de l'ampleur du Mediator ou pas ?
Oui, il y a des scandales de l'ampleur. Alors, en France, à ma connaissance, des affaires d'une telle criminalité organisée, c'est vraiment la machination du poison qui débute dans les années 60.
Oui.
Voilà. Donc c'est vraiment vertigineux. Ça, ce crime chimiquement pur, hein, comme je l'ai appelé dans une bande dessinée, c'est pas possible. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a des tromperies, et puis c'est très proche de l'affaire des opioïdes aux États-Unis, la famille Sackler. Là, aux États-Unis, on a quelque chose qui colle de manière vraiment impressionnante.
Mediator, un crime chimiquement pur, c'est l'objet d'une bande dessinée, effectivement, avec Éric Giacometti et François Duprat aux éditions Delcourt, qui raconte l'affaire du Mediator. Justement, 20 décembre 2023, la Cour d'appel de Paris condamne Servier à rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et mutuelle, parce que vous dire qu'ils ont siphonné aussi pas mal d'argent à
c'est le casse du siècle, hein, ce que j'avais appelé.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Pendant plus de 30 ans, le Mediator a été remboursé et très largement. 9 millions de boîtes prises en charge à hauteur de 65% par la sécurité sociale. Un coût pour l'assurance maladie d'1,2 milliard d'euros. Voilà pourquoi la justice poursuit le laboratoire Servier pour escroquerie. L'escroquerie consistant à avoir mis sur le marché un médicament censé traiter le diabète et donc remboursé, mais qui en réalité a été utilisé comme un coupe-faim, un subterfuge qu'a dénoncé dès le début de l'affaire le docteur Irène Frachon.
Irène Frachon, vous qui êtes notre invitée au carré cet après-midi, ça c'est une archive de l'INA de 2011, hein, donc je pense qu'il faut réévaluer un petit peu les chiffres, après d'ailleurs ce jugement de la Cour d'appel de Paris qui réclamait donc 415 millions d'euros à Servier. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la page de cette affaire est tournée, en tout cas pour vous, ou pas ?
Alors, la décision de la Cour d'appel a été un moment d'émotion immense pour moi, pour les victimes et pour tous ceux qui les ont défendus inlassablement pendant 15 ans, parce que nous avons entendu pour la première fois une décision de justice qui était exceptionnelle, qui était bien écrite, qui disait les faits. Et qui en soulignait la gravité. Et qui soulignait aussi la gravité de l'atteinte d'abord aux personnes, les souffrances des victimes, mais aussi l'atteinte à la société, la confiance de la société dans le système sanitaire. Ses répercussions, une escroquerie à la sécurité sociale, un complot contre la santé. Et les juges ont mis ça en parallèle, par exemple, avec la défiance inspirée vis-à-vis de la vaccination Covid, en disant ce type d'affaire, c'est dramatique, bien sûr pour les gens qui en sont victimes, mais aussi parce que ça va avoir des effets d'entraînement, de défiance, et ça, au total, ça va être dangereux par ces conséquences-là aussi. À tel point que moi, j'avais dû prendre position pour défendre la vaccination contre la Covid en 2021, parce qu'il était prouvé que cela protégeait des formes graves.
Et, même si on vous a peu entendu pendant cette période, hein.
Alors, moi, c'était pas du tout mon sujet, et beaucoup de journalistes m'ont dit, vous voulez pas intervenir.
Voilà.
Vous voulez pas intervenir. J'ai dit, non, surtout pas, parce que vraiment, c'était absolument, puis c'était pas ma spécialité. Ce que je disais quand même, c'est que j'avais regardé les études du professeur Raoult, et je les trouvais de très mauvaise qualité, mais ça, je le disais off, parce que ça avait pas beaucoup d'intérêt d'aller se lancer dans cette bagarre-là. Par contre, lorsque j'ai vu que l'affaire du Mediator était utilisée par les anti-vax, par les complotistes, comme étant une sorte de caution qui prouvait que si l'affaire du Mediator avait bien eu lieu, eh bien ça prouvait aussi que les vaccins, par exemple contre la Covid, étaient extrêmement dangereux. Là, je me suis révoltée et effectivement, notamment sur les réseaux sociaux, j'étais devenue l'égérie des anti-vax. Moi, un médecin, si vous voulez, qui est pneumologue, enfin, quand on sait ce qu'a été les vaccinations, le BCG et d'autres, de la coqueluche, etc. Donc c'était juste délirant, c'était inacceptable.
Comment vous répliquez à ça, alors, justement ?
Une grande tribune et une grande interview dans Le Parisien qui a ensuite été reprise partout. Et c'est drôle, parce que des années après, des centres de santé m'ont dit « Écoutez, Irène, merci, parce que quand vous êtes intervenue, les gens ont dit « Ben, si Madame Frachon le dit, finalement, je vais peut-être me faire vacciner.
Ouais. » Et vous avez été récupérée, clairement.
Ah, mais clairement.
Sur cette
affaire. Alors, au début, de façon un petit peu insidieuse, parce qu'en fait, comme on l'a vu au début de cette émission, les mouvements anti-vax, il y a eu des accidents avec des vaccins. Les vaccins sont comme des médicaments et des moyens thérapeutiques. Ils ont des bénéfices, ils ont des effets secondaires. Et cette évaluation, cette balance bénéfice-risque, c'est vraiment le grand défi de la médecine moderne, tout le temps, y compris après aux commercialisations. Mais pour autant, pour moi, devenir l'égérie des antivax, c'était absolument insupportable. Et ça a commencé très vite. Après l'éclatement de l'affaire du Mediator, beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « Il faut lutter contre les lobbies, contre la corruption des lobbies, contre les conflits d'intérêts. » Et ce que je n'avais pas bien compris, c'est que derrière, il y avait une nébuleuse anti-vax. Je pense par exemple à Michèle Rivasi, qui est décédée maintenant, qui est une femme qui était avec une formation scientifique, sympathique dans le milieu écologiste, et pourtant, je pense, très dangereuse, car complètement captée par cette nébuleuse anti-vax.
Alors l'après-Mediator, ça ressemble à quoi en fait pour vous ? Est-ce que d'abord, vous considérez être dans l'après-médiateur ou pas ?
Oui.
Vous rendiez hommage aux victimes tout à l'heure.
Voilà. Donc, il y a les victimes et leur drame qui va encore se dérouler sur des années. Et d'ailleurs, ça devient compliqué d'imaginer le système d'indemnisation qui fonctionne. Il y a un système d'indemnisation qui a maintenant retenu plus de 4500 victimes, identifiées au cas par cas et indemnisées à hauteur de... Maintenant, on doit être pas loin des 300 millions d'euros. D'ailleurs, ce qui est largement insuffisant souvent, mais enfin bref, on ne va pas discuter de ça. Ça a été une très très grosse bataille. Et ce système d'indemnisation va continuer, c'est comme pour l'amiante, pendant des années et des années, et on réfléchit à la façon de le mener à terme. Donc je vais mourir avec les dernières victimes du Mediator. Pour autant, la justice a été rendue, ça a été un immense soulagement. Alors Servi a fait appel, ce sont ils ne lâchent rien. Ils sont en appel devant la Cour de cassation, ils sont en appel devant le Conseil d'État. Donc je ne peux pas dire que l'affaire est close.
Ouais. Vous allez y retourner d'ailleurs aux audiences ou pas ?
Alors, la cassation, Conseil d'État, moi je ne suis pas, enfin, il n'y a pas de témoignage, ce serait s'il y avait un autre procès. Il y a un autre grand procès au pénal qui attend Servier pour des blessures homicides involontaires qui n'ont pas pu être jugées lors des grands procès entre 2019 et 2023.
Et là, vous irez ou pas ?
C'est possible si je suis appelée à témoigner, bien sûr, c'est même une obligation. Mais très honnêtement, Pour moi, le 20 décembre 2023, c'est quand même...
Une page qui se tourne.
Une page qui se tourne.
Ouais. Et la guerre est gagnée ou pas, à ce moment-là?
Oui. Je pense que quand l'affaire éclate, Servier aurait dû être mis instantanément sous tutelle juridique. C'est-à-dire que c'était tellement énorme, cette affaire-là, c'était tellement dangereux, que je pense que les juges d'instruction auraient dû les mettre sous contrôle juridique. La direction, non pas fermer les usines, mais les mettre sous contrôle, tellement cette direction était délinquante et dangereuse. Et ça, malheureusement, ça a duré pendant des années avec la maltraitance des victimes dans les demandes d'indemnisation. Mais bon, il y a ce regret-là, si vous voulez, qu'il n'y ait pas eu un contrôle plus étroit des activités frauduleuses de ce laboratoire au moment où le scandale éclate. Par contre, la décision de justice de décembre 2023, elle est historique.
Vous continuez à exercer votre métier de pneumologue aujourd'hui, Irène Frachon ?
Oui.
Vous avez atterri en reprenant au fond votre travail ?
Oui, j'ai atterri. J'ai toujours exercé, mais ça a été compliqué. Et ça a été compliqué aussi pour mes patients. Enfin, cette histoire-là, évidemment, elle a été sans arrêt une sorte de bourdonnement qui a beaucoup handicapé, en fait, je pense, mon travail, mon activité professionnelle. J'étais très aidée par mes collègues quand même, très épaulée par mes collègues à Brest. Et maintenant, je travaille dans un désert médical qui est à l'hôpital de Carré, donc centre Finistère. Les gens connaissent Carré par les vieilles charrues. Mais ce qu'ils savent peut-être moins, c'est que c'est une zone qui est extrêmement pauvre, rurale, défavorisée, au sein duquel les services publics, les déserts médicaux, tout ceci pose de plus en plus problème et c'est une population en grande souffrance, en fait.
Donc vous avez fait ce choix de quitter le CHU de Brest pour aller à Carré.
Alors, cet hôpital est fusionné avec le CHU de Brest, donc j'ai toujours le même poste.
Mais vous travaillez à Carré.
Mais je travaille à Carré.
Ouais. La Bretagne, cette région historiquement la plus rétive aux idées du Rassemblement National, qui a enregistré une progression inédite du parti de Marine Le Pen lors des élections européennes et législatives. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben, ça me navre et ça ne m'étonne pas complètement parce que il y a une grande misère sociale. Et les réponses sont insuffisantes. Par exemple, je vais vous donner... Moi, bon, je suis pneumologue. S'il n'y avait pas le tabac, il n'y aurait plus de pneumologie. Enfin, il y a l'asthme, voilà. Mais ce qui fait 80% de notre activité, c'est le massacre lié au tabagisme. 72 000 morts par an en France, directement liés à la consommation de tabac, et qui touche violemment... notamment les populations défavorisées qui, d'une certaine façon, essayent de tenir grâce au tabac et grâce à l'alcool. Et j'ai vraiment le sentiment que la prévention, que la prise en compte et la lutte contre le tabagisme est très en retard en France, même par rapport à nos voisins du Nord, notamment, qui abandonnent petit à petit et qui arrivent à avoir des politiques efficaces.
Ce serait quoi une politique efficace?
Et ici, c'est un peu open bar, si je puis dire, quand même.
Ce serait quoi l'efficacité pour lutter contre le tabagisme?
Ce serait des actions beaucoup plus importantes sur le prix du tabac, par exemple. Les augmentations sont insuffisantes. Il faut, en fait, empêcher l'accès au tabac,
paquet de cigarettes. C'est les personnes les plus riches qui pourront se permettre de fumer.
Mais elles ne fument plus, les personnes les plus riches. Très clairement, le tabagisme frappe et tue. Moi, je vois en permanence des gens, donc dans ce pays-là, c'est rural, et l'industrie agroalimentaire, les 3-8, la précarité, un habitat indigne. On arrive à l'âge de la retraite, et là, l'insuffisance respiratoire, le cancer, les drames, à 60 ans, voilà. C'est vraiment le quotidien de la consultation à l'hôpital de Carré.
Irène Frachon, en écrivant cette interview, j'ai fait un petit lapsus. Au lieu d'écrire « lanceuse d'alerte » à votre sujet, j'ai écrit « lanceuse d'alter ». Ça vous va pas si mal, non ?
Oui, c'est...
Ça résume un peu votre parcours aussi, non ?
L'affaire du Mediator, effectivement, a mobilisé... de ma part, une énergie que je ne pensais pas avoir, mais je pense que la révolte suscitée par le drame de ces victimes m'a mise véritablement hors de moi. Et je crois que rien ne pouvait m'arrêter à ce moment-là. J'ai eu cette chance-là. Je ne suis pas quelqu'un, pourtant, je vous ai dit, je ne suis pas une militante, mais là, ça n'avait pas d'importance. Quelles que soient les montagnes qu'il fallait escalader, on y allait. Parce qu'on savait qu'on avait aussi des armes pour réussir et faire basculer chaque dossier, chaque audience. Et ça, c'était majeur.
Merci beaucoup Irène Frachon d'être venue aujourd'hui au micro.
Merci
de la
Mathieu, on a pu refaire un petit peu le film.
C'est ça.
Après toutes ces années, puisqu'on s'est vu souvent pour en parler, et ces relais dans la presse, c'était essentiel pour avancer, essentiel.
Merci beaucoup et bon retour à Brest. Et on termine l'émission comme tous les jours avec le répondeur et vos messages.
Bonjour, c'est Lise de Montpellier. Alors voilà, j'ai bien écouté l'intervention de Muriel. Elle parlait de pins maritimes, de cèdres, de l'atlas que l'on arrachait dans le Gard. Bon, alors maintenant, autre chose. Bien sûr, j'ai fait partie des personnes, j'ai signé à deux mains contre l'incinérateur de plastique de Montpellier, puisque je suis une ex-gardoise. Et puis ben, finalement, grâce à Camille Crosnier, j'ai fini par comprendre que le plastique ne se recycle pas. Ou alors, ça se recycle, mais à la marge de la marge. Alors, je le répète pour que tout le monde l'entende, c'est le site checktonpolitique.org. Ça nous permet facilement d'interpeller les députés. Voilà. Alors, en attendant, ben, je commence à arrêter d'acheter des eaux en bouteille. Voilà. Ben, écoutez, votre émission est précieuse. Merci d'exister. Au revoir.
Oui, bonjour Mathieu, c'est Solange à Rennes. Alors je viens de lire une histoire très chouette, très gentille, qui va nous faire du bien. Ça s'est passé au sud de Prague, dans une zone qui était classée aire protégée depuis 2016. Ils avaient prévu des travaux pour former des méandres, une rivière et protéger une espèce d'écrevisse qui était en extinction. Eh ben, c'est les castors qui ont tout fait à l'œil. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et ils ont construit un barrage, des zones humides, etc., etc. Et puis, ben, ça fait des sacrées économies au gouvernement. Et tout le monde est très content. Et nous aussi, sans doute. À bientôt.
Édith du Jura, c'est pour dire à la dame qu'on peut faire interdire de couper des arbres avec nature, environnement. Moi, je l'ai fait, ça a servi, ils ont arrêté immédiatement. Voilà, merci de faire savoir. Au revoir.
Oui, bonjour Mathieu, c'est Stéphane, j'appelle de Bastia. Je viens d'apprendre sur France Inter que 60 millions de consommateurs vont être vendus et sortir de la sphère publique pour passer au privé. Je pense que ça mériterait une émission de ta part qui parle d'écologie, de biodiversité, de bien consommer, de citoyenneté, de toutes ces choses hyper positives que les citoyens doivent faire. Donc 60 millions de consommateurs, ça les aide un peu. Si ça disparaît, ça risque de manquer. Voilà, bonne journée, bonne journée.
Bonjour la Terre au carré, c'est Laurie de l'Oise. Alors courant janvier, passant sur Paris, je voyais des jardiniers qui poussaient des dizaines et des dizaines de sapins vers les bennes de la voirie qui passaient. Il y en avait beaucoup trop pour tous les recycler et que de toute façon, ce compost acide n'était pas forcément bon pour les jardins. Alors peut-être que ces braves gens bien intentionnés qui ont trimballé leurs sapins jusque dans les squares penseront à prendre peut-être une plante verte bien vivante l'année prochaine et les monocultures de sapins trouveront bien à se recycler elles aussi. N'oublions pas que beaucoup de traditions ont une origine commerciale. Bonne Saint-Valentin!
Ah oui, c'est vrai, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, 14 février. Merci pour vos messages, 01 56 40 45 45. Merci à Valérie Ayestaraï à la réalisation, Anna Massardier qui a préparé ce dossier autour d'Irène Frachon, et puis Vincent Samuel pour les archives de l'INA et Guillaume Fricheux à la technique.